ce que Dieu déclare est.
Ce que Dieu déclare a été, ce que Dieu déclare sera, à tout jamais. Parce que sa parole est la seule chose qui va demeurer, n'est-ce pas ? Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce matin. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu nous donnes en abondance, avec générosité. Merci parce que nous croyons que tu nous parles. Nous croyons que tu es parmi nous ce matin. Nous croyons que tu vas faire une œuvre dans nos vies que tu accomplis déjà, et nous te remercions pour cela, Seigneur. Et nous te prions que tu nous parles encore ce matin. Donne-nous les oreilles pour écouter. Donne-nous les yeux pour voir, Seigneur. Que nous puissions entendre avec notre cœur et voir avec notre cœur ce que tu as à nous dire, librement, Seigneur, sans contrainte. Je te prie que tu parles à travers moi, Seigneur, que ce soit toi qui parles et non moi, afin que tu puisses adresser à chacun le message qui lui est destiné. Au nom de Jésus, amen. Je voudrais commencer simplement par vous demander de m'excuser. Parce que j'ai pu dire des choses dans mes prédications passées qui ont pu peut-être vous décourager de lire l'Ancien Testament. J'avais dit que c'était important qu'on puisse voir Jésus-Christ au travers des textes que nous lisions. Et c'est vrai. Et je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que pour comprendre des textes de l'Ancien Testament, vous avez besoin que ce soit le pasteur qui vous l'explique. Ou moi, ou un théologien, ou un exégète. Il y a des textes, c'est vrai, de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus-Christ. Des prophéties, des lois, ce genre de choses. L'Ancien Testament, dans sa globalité, pointe vers Jésus-Christ. Mais tous les textes de l'Ancien Testament ne parlent pas de Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est important peut-être que je le mette au point, parce qu'on pourrait être tenté de chercher des formes allégoriques dans tous les textes qu'on va trouver, en essayant d'identifier Jésus dans les personnages et les apôtres ici, alors que ce sont des récits, ce n'est pas forcément le cas. Donc, si jamais vous avez été culpabilisé par rapport à ça, je vous présente mes excuses. Ceci étant dit, j'aimerais poser une question ce matin. Qui d'entre vous a amené son bouc pour faire l'expiation de ses péchés ? Ou son taureau, ou son agneau. Alors, j'entends quelqu'un dire que s'il amène un agneau, c'est pour faire un méchoui. Mais bon, c'est aussi de la raison, après tout. C'est vrai, personne. Pourquoi ? Alors, certains diront peut-être, oh, parce que c'est une loi qui est dans l'Ancien Testament. Mais la loi « tu ne tueras pas » est dans l'Ancien Testament aussi. Et on essaie de l'appliquer encore aujourd'hui. Certains diront peut-être que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est vrai, mais c'est peut-être un petit peu vague encore. Les plus savants d'entre nous peut-être diront, ben, parce que Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés, une fois pour toutes, il nous a rendu Dieu favorable et nous n'avons plus besoin d'aller au temple maintenant pour nous approcher de Dieu, il a déchiré le voile, et nous pouvons nous approcher de Dieu pleinement. Ok, très bien. Qu'en est-il des 599 autres lois restantes ? Alors, je ne les ai pas comptées personnellement, mais on dit qu'il y en a 600 à peu près. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite série de 60 prédications où on va Bon, d'accord, ce n'était pas la bonne solution, mais j'avais prévu un plan B, heureusement. Donc, je vous propose d'essayer de comprendre ça globalement au travers de l'exemple d'une personne qui a été confrontée à ça dans la Bible, qui a été confrontée à ses anciennes convictions qu'elle avait et comment Dieu l'a amenée à changer de perspective pour la mission qu'il lui destinait. Et alors, c'est un texte intéressant. On ne le met pas encore pour l'instant. C'est un texte vraiment intéressant parce que, comme beaucoup de récits dans la Bible, il est plein de mystères. Il est plein de choses. Alors, nous, on sait parce qu'on lit le récit. Alors, on sait que des choses arrivent, mais les personnages ne le savent pas encore. Et ça va les impacter dans leur vie. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que ce sont des histoires qui se sont réellement produites. On n'est pas dans un film. Ça s'est réellement passé. Et c'est la rencontre entre Dieu et un homme. Et Dieu a un objectif pour cet homme. Seulement, cet homme n'est pas prêt à accomplir cet objectif encore. Il a besoin d'être renouvelé dans sa vision. Il a besoin que Dieu vienne le bousculer un peu et lui donne ses yeux Il a besoin de devoir renoncer à ses vieilles convictions pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Et qui est cet homme ? Cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Il est celui à qui Jésus-Christ a dit « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il est celui qui, comme les autres disciples, lorsqu'ils étaient tous réunis, a reçu la plénitude du Saint-Esprit à la Pentecôte, sous la forme d'une langue de feu, avec un vent violent. Il est celui qui s'est levé, qui a apporté la première prédication de toute l'histoire de l'Église. 3000 hommes convertis, baptisés immédiatement. Il est celui dont l'ombre guérissait les malades. Il est celui qui, le chapitre juste avant, vient de ressusciter un mort. Et là, pour la mission que Dieu lui confie à présent, il n'est pas encore prêt. Et moi, ça me fait réfléchir parce que je peux être rempli d'esprit aujourd'hui, je peux être rempli de convictions et de certitudes. Et pourtant, pour la mission que Dieu s'apprête à me confier, peut-être que je ne suis pas encore prêt. Et c'est important que nous puissions rester enseignables. Alors, je vous propose de découvrir ce texte qui se trouve en Actes 10, non pas dans l'Ancien Testament. Actes 10, les versets 9 à 20. Et on parlera du contexte ensuite. Le lendemain, alors que ces hommes, on va en parler, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville. Pardon, peut-être que vous n'avez pas tous la page. Non, c'est vrai, il est dit que quand Paul prêchait, il y avait une communauté qui examinait tout dans l'écriture pour voir si c'était bien conforme. Donc c'est bien que vous ameniez vos Bibles et que vous vérifiez que je n'ai pas écrit n'importe quoi. Mais je vous remercie de me faire confiance aussi. Et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe, attaché aux quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième voix, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit trois fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille, on va parler de lui, avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Ils s'appellent tous Simon. Heureusement qu'ils ont des surnoms parce que... Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'esprit lui dit « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et on va arrêter là notre lecture pour ce matin. C'est une histoire qu'on peut aborder sous plein de sujets différents, sous plein d'aspects, d'angles différents. Alors, le contexte. Il y avait un homme qui s'appelait Corneille et qui habitait environ à 48 km de là, dans une autre ville. Cet homme n'était pas juif, il était officier romain, mais il était pieux, c'est ce que nous dit la Bible. Il donnait de son argent, il fréquentait les croyants d'une certaine manière, on imagine. Il désirait connaître le Seigneur, c'est évident. La Bible nous dit, je crois que cet homme n'était pas sauvé. Pourquoi ? Parce qu'en Actes 11, verset 14, nous lisons, il te dira un message, donc c'est parce que Corneille a reçu une vision d'un ange. D'accord ? Cet ange lui dit d'appeler Pierre, et il lui dit, Pierre te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi je pense qu'il n'était pas sauvé. C'est une conjecture. En tout cas, il avait une certaine foi et il avait besoin d'une certaine révélation. Vous savez, comme quand Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas tes pensées qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. » Et nous avons besoin de cette révélation qui vient du Père, n'est-ce pas ? Donc, Corneille reçoit une vision d'un ange. Cet ange lui dit d'aller chercher un certain Pierre et lui donne son adresse. Il est logé, voilà, alors aujourd'hui peut-être qu'il aurait donné le numéro de la rue, Abraham, alors pas Lincoln, forcément il n'existait pas à l'époque, Abraham tout court peut-être, vous voyez. Vous imaginez mieux qu'un GPS. Il lui dit exactement où il habite, chez qui il habite et où, quand, comment il va pouvoir le trouver. Et donc Corneille envoie deux de ses hommes, des hommes pieux, des hommes en qui il avait confiance, pour aller chercher cet homme, Pierre. Nous l'avons vu, les hommes arrivent, Pierre reçoit cette vision. Donc Dieu avait déjà préparé les choses en avance, n'est-ce pas ? Pierre reçoit cette vision et alors qu'il est encore en train de réfléchir dessus, voilà les hommes qui frappent à la porte. Et l'Esprit lui dit, ces hommes je les ai envoyés, va, suis-les, ne t'inquiète pas, c'est moi qui les envoie. Ok, c'était important que Pierre reçoive cette confirmation-là parce que ces hommes n'étaient pas juifs. Et à l'époque, les juifs et les non-juifs n'avaient pas le droit d'être mêlés les uns aux autres. On va en parler. Donc, nous retrouvons Pierre, en gros, qui va suivre ces hommes. Il arrive chez Corneille, et nous connaissons la suite. Il prêche la parole, et les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit exactement comme les juifs l'avaient reçu, et ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont baptisés d'eau. Voilà la fin de l'histoire. Et Pierre comprend le sens de tout ça. Il comprend qu'en fait, cette vision signifiait... Enfin, au-delà des animaux purs et impurs, cette vision signifiait qu'à présent, les juifs et les non-juifs étaient au même niveau devant Dieu. Voilà. Et ce qui va retenir notre attention, particulièrement durant la suite de ce message, c'est l'affirmation que nous voyons dite par Dieu au verset 15. Il dit ceci, alors peut-être, voilà, juste avant. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. Et ça, ça nous apprend quelque chose sur la nature de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chose est juste et bonne que Dieu l'a fait. Mais parce que Dieu est juste et bon, tout ce qu'il fait est juste et bon. Ce n'est pas parce qu'une chose est pure que Dieu déclare qu'elle est pure, mais c'est parce que Dieu déclare que cette chose est pure qu'elle est pure. Aux yeux de tous, elle pourrait paraître impure, mais aux yeux de Dieu, elle est pure. Et ça, c'est absolument essentiel, par exemple, quand on parle du salut. Si nous disons que Dieu nous a justifiés, il ne nous a pas rendus justes, il nous a déclarés justes. Il a déclaré de sa bouche que nous étions justes devant lui. C'est un acte légal, si vous voulez. Nous serons rendus semblables à Christ le jour où Christ reviendra. Et sinon, comment pourrions-nous expliquer que nous péchons encore ? Nous avons été déclarés justes par Dieu, devant Dieu, sur la base du sacrifice de Christ, mais nous ne sommes pas justes pour autant. Dieu nous a déclarés justes. Et on retrouve ce genre de tension assez fréquemment dans l'Évangile. Et dans la Bible en entier, par exemple, nous voyons dans l'élection des hommes que Dieu est souverain et qu'il choisit des hommes pour lui appartenir, mais il demande quand même que nous croyions en lui et que nous nous repentions. Il demande un acte de notre part. Il nous demande de nous abandonner à lui. Il nous demande de le recevoir. Si nous considérons, par exemple, que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins, la Bible le dit. Et pourtant, la Bible nous dit aussi que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Si Dieu déclare qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et pourtant, il nous affirme aussi qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, il le déclare, nous le croyons, même si nous ne le comprenons pas. Alors, pour revenir à Pierre, l'objectif de Dieu, c'était d'envoyer Pierre prêcher le salut aux non-juifs. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Paul venait de se convertir à l'instant, ou un petit peu avant. Il a choisi d'envoyer Pierre. Le problème, c'est que les juifs ne devaient pas se mélanger avec les nations païennes. Et on le voit juste après, en fait. Quand Pierre revient à Jérusalem, les circoncis, c'est-à-dire les juifs, lui disent... Ils lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Ça faisait partie de leur loi. Ils ne devaient pas se mélanger, ils devaient être séparés, d'accord, des autres peuples. Dieu doit donc d'abord mettre à jour Pierre, entre guillemets. Il doit le mettre à jour, en lui faisant comprendre ce qui a changé avec Jésus-Christ. Et Dieu, parfois, dans nos vies, doit nous mettre à jour. Dans nos convictions, dans nos certitudes. Parce que peut-être que le service qu'il m'appelle à faire ou la mission qu'il s'apprête à me donner va demander de moi que je sois un petit peu mis à jour par rapport à ce que je crois ou ce que je pense de moi-même ou des autres, ou même de Dieu. Dieu va donc utiliser le symbole des animaux purs et impurs pour ça. Alors, que disait la loi de Moïse par rapport à ça? Alors, je vous ai donné un petit extrait. En Lévitique 11, les versets 3 et 4, nous lisons ça. « Vous pourrez manger, donc c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. En revanche, vous ne mangerez aucun de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais n'a pas le sabot fendu. » Un exemple. « Vous le considérerez comme impur. » Et alors ça, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps en fait. Dieu ne dit pas que les animaux sont impurs. Il dit « vous, vous les considérerez comme impurs ». Dieu n'a pas déclaré les animaux impurs. Il a dit que vous, peuple de Dieu, vous les considérerez comme impurs, pour vous. Dieu ne se contredit pas, il ne déclare pas dans l'Ancien Testament que les animaux sont impurs et dans le Nouveau qu'ils sont purs. D'accord ? Ça c'est important. C'est le peuple de Dieu qui devait les considérer comme impurs. Alors, quel était le but de la loi en fait ? Et ça, c'est un point vraiment très important. J'aimerais prendre l'exemple du professeur de la loi qui vient voir Jésus-Christ. Et il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus sait qu'il a en face de lui un professeur de la loi, quelqu'un qui connaît la loi. Il lui dit, « Eh ben, que dit la loi ? Qui dis-tu ?» Vous pouvez lire cette histoire en Luc 10. Le maître de la loi répond, il connaît bien son sujet, on ne peut pas lui reprocher. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui-même avait dit que c'était là les deux plus grands commandements et que toute la loi découlait de là. Jésus lui répond, très bien, tu as bien répondu, fais ça et tu vivras. Et le professeur de la loi, voulant se justifier, c'est ce que nous dit le texte, interroge Jésus, lui dit, oui, d'accord, mais qui est mon prochain? Et là, Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Mais qu'aurait dû dire ce professeur de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée à chaque seconde de ta vie, depuis le jour de ta naissance jusqu'à présent et jusqu'au jour de ta mort. Et ton prochain comme toi-même, depuis le jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort. Est-ce que tu as été capable d'accomplir ça? Parce que si ce n'est pas le cas, tu ne vivras pas. Et le professeur de la loi aurait dû comprendre ça, en fait. Il aurait dû dire, effectivement, oui, la loi dit ça, j'en étais incapable, j'ai besoin d'un sauveur. Seigneur, sauve-moi. Et nous tous qui avons compris ça, nous sommes allés devant Jésus et nous avons dit que nous avions été incapables d'accomplir cette loi, n'est-ce pas? Effectivement, si l'un d'entre nous pouvait accomplir cette loi parfaitement, comme Jésus l'a fait, nous pourrions vivre. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Le problème avec le système religieux qui était devenu à l'époque, c'est que c'était devenu un système qui était entretenu par un système d'habitudes, de lois, de coutumes, de rites et de sacrifices. On n'avait pas besoin d'y mettre son cœur, en fait. On n'avait pas besoin d'aimer Dieu particulièrement. Il suffisait de suivre la loi, et si on n'arrivait pas à suivre la loi trop, on apportait des sacrifices. Et puis, on pouvait être orgueilleux dans son cœur, on pouvait mépriser le Seigneur ou son prochain. Peu importe, on enseignait en fait que par la loi on était sauvé. C'est pour ça que Paul est si virulent à un moment donné. Vous savez, quand il dit que la loi est bonne mais qu'elle a apporté le péché. Voilà. Le problème de la loi, c'est qu'elle n'a jamais eu pour but, pour objectif de sauver les hommes. L'homme ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Il ne peut être sauvé par la loi. C'est aussi vrai dans le Nouveau Testament que ça l'est dans l'Ancien. Prenons l'exemple d'Abraham. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Abraham eut foi en Jésus et cela lui fut compté comme justice, c'est-à-dire que Dieu l'a justifié, l'a déclaré juste devant lui sur la base de la foi, non de la loi, qui n'avait même pas encore été donnée. N'est-ce pas? Et tous les hommes qui ont précédé Abraham et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à Jésus-Christ ont été sauvés exactement de la même manière. Qu'est-ce que la loi était pour ceux à qui elle avait été donnée à l'époque? Je vous propose de lire dans le Psaume 19, les versets 8 à 9, ce que David dit au sujet de la loi. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. On voit là que pour David, la loi n'est pas un fardeau légaliste. C'est quelque chose qu'il aime pratiquer. Elle est plus précieuse que l'or pour lui. Alors je vais vous donner le secret. sans doute la plupart d'entre vous le savez, mais peu importe. Le secret de la loi. La loi de l'Ancien Testament a été donnée à des personnes qui avaient déjà fait l'expérience de la grâce de Dieu. La loi de l'Ancien Testament a été donnée à des personnes qui étaient déjà sauvées. Alors ça, c'est super important, en fait. Parce que la loi ne sauvait pas les gens à l'époque. Ils étaient sauvés et ensuite ils observaient la loi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Avant de donner la loi, si vous lisez Exode par exemple, vous avez 18 chapitres à peu près de grâce. Je t'ai sauvé d'Égypte. Je t'ai fait traverser la mer Rouge. Je t'ai débarrassé des Égyptiens. Et nous avons vu dans une précédente prédication que tout ça, c'était symbolique. Vous savez, la Pâque, Christ, la repentance, la foi, la nouvelle naissance. Dieu avait délivré son peuple et il le dit, je t'ai délivré, je t'ai choisi, je t'ai sorti du pays de servitude, je t'ai délivré, à présent tu m'appartiens. Et maintenant que tu peux entrer dans cette alliance avec moi, voici la loi que je te donne afin que tu puisses me répondre de la manière appropriée, avec amour, parce que tu seras saint comme moi je suis saint. Et comme tu ne sais pas comment le devenir, parce qu'à l'époque je vous rappelle, que l'Esprit de Dieu n'avait pas encore été répandu sur toute chair. Dieu donne la loi. À présent, que se passe-t-il ? Dieu nous met son Esprit en nous, il met sa loi dans notre cœur et il nous donne pour désir de la suivre, d'accord ? Par son Esprit. À l'époque, il a donné la loi, il a dit au peuple, voilà, maintenant que tu es sauvé, voilà comment je voudrais que tu marches, pour que cette réponse soit appropriée, pour que tu sois saint, pour que tu sois séparé des autres peuples et pour que les autres peuples puissent voir qu'il y a un Dieu qui agit et qu'il puisse apprendre à nous connaître. Autrement dit, la loi est une réponse d'amour d'un peuple pour le Dieu qui l'a sauvé, exactement comme aujourd'hui. D'accord. Alors, les animaux purs et impurs dans tout ça. La réponse, on l'a en Lévitique 20, les versets 24 à 26. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominable par des animaux, des oiseaux et tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Cette loi était un symbole, le symbole d'une appartenance d'un peuple à son Dieu. Le symbole d'une séparation de ce peuple d'avec les autres peuples. Et c'était un rappel constant à chaque repas pour ce peuple, qu'ils étaient séparés de Dieu. C'était pour eux un moyen mnémotechnique, si vous voulez, que Dieu leur avait donné pour leur faire souvenir qu'ils étaient séparés des autres peuples, qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils ne s'appartenaient pas à eux-mêmes, qu'ils n'appartenaient pas à des idoles ou à d'autres dieux, mais qu'ils appartenaient à l'Éternel. Et cette séparation était fondamentale, car le projet de Dieu était d'apporter le salut par l'intermédiaire d'Israël. Rappelez-vous la promesse que Dieu a donnée à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi ». Israël devait donc être un modèle visible pour les autres nations, pour les attirer à Dieu. Et en Jésus-Christ, le salut a été apporté finalement, la promesse a été accomplie, le salut a été apporté à toutes les nations. Et donc la distinction entre les Juifs et les païens a de ce fait été abolie. Et les lois qui symbolisaient cette distinction, comme les animaux purs et impurs, ont été, par le même coup, abolies. Et c'est ce que Pierre a compris ce jour-là. Et j'espère que vous avez pu comprendre ça vous aussi, peut-être que vous le saviez déjà, et dans ce cas, ça vous aura fait une piqûre de rappel. Aujourd'hui, nous en sommes tous à un point de notre vie où Dieu nous appelle à faire quelque chose. Nous ne sommes pas appelés à rester inactifs. Soit faire quelque chose pour les autres, soit faire quelque chose par rapport à nous-mêmes, soit faire quelque chose en réponse à lui. Peut-être que, comme Pierre, vous êtes appelé à une mission ou un service. Et comme Pierre, vous voyez, il y avait un faisceau d'indices qu'il a poussé, en fait, que ce soit cette vision où l'Esprit qui lui a dit « va avec eux » et la synchronisation, si vous voulez, des événements a poussé Pierre à les suivre, alors que tout indiquait normalement le contraire. Il ne devait pas les suivre. Et souvent, Dieu nous parle comme ça, par des indices, des choses qui viennent se synchroniser les unes aux autres et qui nous montrent qu'on va dans la bonne direction. Et peut-être que le Seigneur nous appelle à un service, mais on hésite. Pour des raisons qui nous sont propres. Peut-être qu'on pense que ce service est insignifiant ou inutile, ou peut-être qu'on pense qu'on n'a pas les capacités de le faire. Et on dit comme Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur te dit peut-être ce matin, ne considère pas comme impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et toi, mon frère ou ma sœur, qui doute peut-être de l'amour de Dieu ce matin. Après ce que tu as pu peut-être dire, avoir dit, ou fait, ou pensé, et tu t'en veux, et peut-être que tu ne t'aimes même plus toi-même, mais Dieu te déclare pur, ne te considère pas impur. Dieu t'a déclaré pur. J'aimerais juste dire une dernière chose à ceux qui peut-être sont comme Corneille et qui se disent « Si seulement le Seigneur m'avait envoyé un ange, un homme de Dieu, qui me dirait très précisément « Tu vas écouter ces paroles et tu seras sauvé. » Peut-être que le Seigneur t'appelle ce matin et il te dit « Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » Et peut-être que tu as besoin de recevoir une révélation qui vient du Père. Alors Seigneur, ce matin, je veux présenter chacun de nos cœurs devant toi. Là où nous en sommes, avec nos doutes et nos combats, nos incertitudes et nos demandes, sachant que toi, tu peux y répondre. Tu peux nous donner les certitudes. Tu nous équipes et tu nous envoies. Tu es celui qui transforme les vies et qui bouleverse les vies. Nous l'avons chanté et nous le croyons. Et je veux te remettre chaque personne ici. Merci parce que tu les aimes d'un amour si fort et si tendre. Merci Seigneur pour cet amour. Amen.